le numéro 157 de L'Âge de Fer est paru. C'est le numéro de ce mois de décembre qui titre « Tous sorcières ». Et alors, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir une conversation avec Fabien Ginesti, qui est rédacteur à L'Âge de Fer, parce que ça peut aussi donner des idées de cadeaux de Noël. Voilà, il n'est pas trop tard pour offrir un abonnement à un journal sympa, militant. Et L'Âge de Fer, ça peut être vraiment un chouette cadeau. En plus, il n'est pas cher. C'est 2 euros quand vous l'avez. Alors, j'allais dire en kiosque, mais il n'est pas en kiosque. Il est chez votre magasin bio le plus proche de chez vous, ou dans l'association militante du coin. Et sinon, vous pouvez aussi le commander directement par Internet. Il y a des offres de Noël. Salut Fabien, comment vas-tu ?
Ça va très bien, salut, bonjour.
Alors, c'est quoi ce titre d'abord ? Tous sorcières.
On a voulu faire un petit clin d'œil à l'écriture inclusive. On a voulu faire un dossier sur les sorcières. Voilà. Et c'est vrai qu'on se voyait mal ne pas utiliser ce mot féminin. Voilà, donc c'est un petit clin d'œil à l'écriture inclusive, et puis ça accroche, j'ai l'impression que ça marche.
Ça marche très bien, et puis alors on apprend plein de choses dans ce dossier sur les sorcières, on va y revenir tout à l'heure. Là je reste à la page 1, là, sur l'édito de Clément Villaume, qui a été écrit au moment du confinement. Alors là on en est à moitié sorti de ce confinement, mais on sent bien que aussi l'équipe de L'Âge de Fer a été secoué par ce confinement.
Oui, écoutez, comme tout le monde, c'est vrai que c'est pas évident. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent peut-être plus mal le deuxième que le premier. Il y a une forme, c'est bientôt l'hiver. Il y a peut-être une forme de lassitude. Il y a moins l'effet de surprise. Et le collègue, fait un petit coup de blues par rapport au fait que il a l'habitude d'aller ramasser des champignons, par exemple, ce genre de choses, se promener dans les bois, sachant également que il y a certaines personnes.
Il y avait les chasseurs qui avaient le droit d'y aller.
Il se pose la question, est-ce qu'il lui faudra acheter un fusil pour aller ramasser des champignons en toute légalité?
Bon, alors L'Âge de Fer, c'est toujours évidemment un journal militant. Tu co-signes avec Nicolas Bérard le premier article pour un Noël sans Amazon, avec des pétitions, plein de projets d'entrepôts d'Amazon stoppés un peu partout sur le territoire français.
Oui, effectivement, il y a une dizaine, de mobilisations dans toute la France. Il y a beaucoup de mobilisation parce que en face il y a beaucoup de projets de construction d'entrepôts, de plateformes logistiques pour Amazon. C'est vrai qu'on n'a pas trop conscience de quand on clique, effectivement on a le colis qui est livré, on paye, tout est dématérialisé et on n'a pas trop conscience de la chaîne logistique que ça représente tout ça.
Apprend qu'il y a une étude aux États-Unis qui explique que 4 emplois supprimés et 1 emploi créé pour l'installation d'Amazon quelque part.
Tout à fait, oui. Aux États-Unis, ils ont un peu plus de recul que nous par rapport à ça. Ils commencent vraiment à s'affoler parce qu'il y a, c'est un phénomène qu'ils ont nommé The Retail Apocalypse. Ils estiment à 260 000 suppressions nettes, destruction nette d'emplois depuis 10 ans.
Et vous racontez l'histoire de cette pétition. Donc il y a des luttes. Par exemple, à Nantes, il y en a qui luttent contre un entrepôt de 184 000 mètres carrés. Alors juste, je fais une parenthèse là-dessus parce que hier, j'ai fait Montauban-Toulouse en bagnole et on passe devant une grande base logistique qui ne cesse de s'accroître au fur et à mesure avec des grands bâtiments d'une chaîne qui s'appelle Action, et il y a un énorme bâtiment qui est vraiment colossal et qui fait donc, il y a écrit 48 000 mètres carrés de mémoire, je crois. Donc quand on voit ce truc gigantesque qui fait 48 000 mètres carrés, on imagine l'entrepôt de 184 000 mètres carrés qui cherche un endroit où se poser du côté de Nantes. Ça doit être quelque chose.
Vraiment des projets gigantesques, effectivement. Il y en a une vingtaine à peu près de méga entrepôts.
Alors il y a des luttes, et puis il y a des luttes sur Internet avec une pétition qui essaye d'exister, mais qui est bombardée par des hackers.
Alors, le collègue n'indique pas qui est à l'origine du hackage du site, mais effectivement, voilà, il y a un petit collectif qui a lancé une pétition pour un Noël sans Amazon, qu'on trouvera facilement. Mais effectivement, pour la signer, je sais pas, j'y suis pas allé aujourd'hui, mais il y avait des problèmes. Le site se faisait hacker, pirater, voilà.
Oui, genre 90 000 signatures en 1 heure, signé Jeff Bezos et Bill Gates, des choses comme ça, ce qui fait que ça bloque en fait le processus et on ne peut pas signer. Mais l'article finit bien, justement, l'article que tu signes avec Nicolas Bérard, Fabien, il finit en disant, cela dit, il n'est pas indispensable de signer en ligne pour s'engager à passer Noël sans Amazon. Voilà, qu'on se le dise. Aujourd'hui, notre fil rouge va au magazine L'Âge de Fer. C'est un mensuel qui coûte 2 euros, un mensuel militant que vous pouvez offrir pour Noël. Voilà, le numéro 157 du mois de décembre, titre sur Tous sorcières. Et on a commencé à le feuilleter en début d'émission avec Fabien Ginesti. Alors, je tourne les pages et on tombe sur un article sur la lutte contre les déchets cachés des magasins vrac. Eh oui, parce qu'on ne se rend pas compte, mais on va au magasin vrac pour ne pas avoir de papier d'emballage, de carton, etc. Mais évidemment, les denrées, elles n'arrivent pas sans rien quand même.
Oui, tout à fait. C'est une bonne initiative d'un réseau de magasins qui sont basés à Nantes, qui s'appelle Chez Au Bocal, qui est un magasin de vrac, qui effectivement constate de tous les déchets qui stockent. Pour le coup, ils les ont pas jetés, mais voilà, par exemple, il y a en 5 mois, ils ont calculé avoir stocké près d'une tonne de carton, 61 kilos de seaux en plastique, 200 kilos de bidons, 200 kilos de bouteilles en verre. Donc voilà, tous ces produits-là, bon, voilà, ils essaient de les acheminer, de faire en sorte que ces produits aient une seconde vie. Mais voilà, plus globalement, ils essaient d'avoir une réflexion sur la limitation des déchets en amont, on va dire, des consommateurs. Voilà, effectivement, derrière, c'est un peu comme Amazon, il y a toute une logistique qu'on ne voit pas et sur laquelle il y a énormément à faire également pour limiter l'impact environnemental. Ouais.
Alors, ensuite, on va tomber sur une double page sur les luttes. On avait parlé, je ne sais pas si ça devait être avec toi, oui, parce que vous avez dû faire la promo de cette bande dessinée qui a été plus ou moins censurée en Bretagne, là, sur les algues vertes, tu sais. Et, oui. Et on voit que finalement, la bande dessinée est de plus en plus un vecteur de communication et de passage d'informations pour les luttes, puisque là, il y a un très bel ouvrage, apparemment, qui s'appelle 100 000 ans et qui retrace l'histoire de la bataille opposant les promoteurs du programme d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure et puis ceux qui luttent depuis le début contre ce projet, quoi.
Oui, tout à fait. Tu fais le parallèle avec le. Alors, j'ai plus le nom plus de la BD en tête.
Je le retrouverai. C'est une
BD très, très sympa, voilà, sur le problème des algues vertes en Bretagne. Et là, effectivement, c'est une BD qui sort là, en ce moment, sur les luttes. Les luttes, donc, comme tu disais, par rapport au ACIGEO, le centre de traitement ou d'enfouissement plutôt des déchets ultimes. Effectivement, ouais, les BD deviennent des supports de communication, mais également documentaires, j'ai envie de dire,
d'information. Ouais. Ça permet d'étayer de façon pédagogique aussi ce qui se passe, et puis de raconter les histoires. Le bouquin qu'on cherche s'appelle Algue verte, l'histoire interdite. Voilà, tout simplement. Hein, il est.
D'accord.
Voilà, vous pouvez taper dans Google et le commander. Voilà, d'autres idées cadeaux pour Noël. 100 000 ans, algues vertes, par exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Évidemment, je continue de feuilleter le magazine L'Âge de Fer de ce mois de décembre. Et puis, on a un reportage sur un chantier de comment dire, de réhabilitation. un chantier pour les gens qui sont en cure de désintox, par exemple, et qui remontent des ruines dans le Vaucluse.
Chantier de reconstruction, on va dire.
Ouais, bah oui, voilà.
Des corps et des bâtiments et des âmes, dans le Vaucluse, exactement. C'est un petit hameau où, voilà, qui est devenu centre de... lié, oui, voilà, aux addictions, où les personnes reconstruisent le village à partir de techniques artisanales, là, en l'occurrence de la maçonnerie en pierre sèche. Voilà. Un petit reportage de ma collègue, oui.
Lisa Jacquino signe ce reportage. Et puis alors, elle est beaucoup à l'œuvre aussi pour le dossier de l'âge de fer de ce mois de décembre. Donc, c'est tous sorcières. Et on marque une pause dans notre conversation. Je te reprends un peu plus tard, Fabien Ginesti, pour continuer à feuilleter l'âge de fer du mois de décembre. Et on continue notre fil rouge aujourd'hui, c'est une petite revue de titres comme ça avec le magazine L'Âge de Fer. Le numéro de décembre est paru et on le feuillette avec Fabien Ginesti. On arrive donc à ce dossier, hein. Il y a toujours un gros dossier dans le magazine L'Âge de Fer et là c'est un dossier sur les sorcières, tous sorcières. Et donc on y apprend dans le tout premier article signé Lisa Jatino qu'il y a un ouvrage de Silvia Federici qui est enseignante en sciences sociales aux États-Unis qui fait le lien entre la chasse aux sorcières et l'instauration du capitalisme et la dégradation de la condition des femmes.
Oui, alors oui, parce que c'est un lien. En fait, ce que décrit cette chercheuse, c'est que le capitalisme s'est mis en place avec la privatisation des terres. En fait, ce qu'elle dit, c'est qu'il y avait très peu de différence de tâches avant le salariat, tout simplement. C'est que les hommes et les femmes avaient des tâches qui n'étaient pas qui étaient différentes peut-être, mais il y en avait pas qui étaient valorisées et d'autres qui étaient dévalorisées. Et avec notamment la privatisation des terres, le mouvement des enclosures, hein, ça s'appelle, c'est à la fin du Moyen-Âge. Voilà, il va y avoir la mise en place du salariat et petit à petit la distinction entre salariat et travail à l'extérieur. Et tâches domestiques, voilà, et petit à petit, les tâches domestiques vont être dévalorisées au profit du salariat. Donc, effectivement, elle montre, c'est très intéressant cet article, ouais, pour montrer les liens entre historiquement, en fait, quel est le rapport qu'il y a eu entre l'installation du capitalisme et qui coïncide, du coup, avec effectivement cette chasse aux sorcières qui a duré. Voilà, qui a duré, mais qui a atteint son point culminant au début du XVIIe siècle, et voilà, effectivement, qui a fait 50 000, voilà, estimé à 50 000 européennes. Exécutées.
Voilà. Et alors évidemment, des femmes plutôt autonomes, souvent vivant seules, s'assumant complètement. Des femmes vieilles aussi, ça participait, on va dire, de toute la propagande de l'époque pour installer une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de vivre en société.
Oui, voilà, il y avait, on va dire, une coïncidence d'intérêts entre, c'est ça, on va dire, l'Église catholique et... Et le pouvoir économique. Et effectivement, il y a eu ce modèle où la femme du coup devait être comment dire, ne pouvait pas être autonome, en fait. Le couple était l'alpha et l'oméga de la comment dire, qu'il n'y avait pas de vie hors du couple et que, effectivement, surtout pour les femmes. Ouais,
Donc voilà, dans ce premier article de Lisa Jacquino, on y apprend donc que ce ne sont pas les superstitions du Moyen-Âge qui ont conduit les femmes au bûcher, mais bien une réaction politique des élites confrontées aux luttes sociales et en quête de nouvelles richesses. Voilà, et c'est la chercheuse Silvia Federici. On apprend cette chose-là et puis plein d'autres choses. Il y a... des rencontres avec des chamans, avec des druides, tout un tas d'articles. Et il y a même un jeu, le jeu de la sorcière. au milieu, voilà, qui nous aide à devenir une vraie sorcière.
Ce joli jeu de loi qui a été réalisé par Annie Kergoat, une dessinatrice avec qui on aime bien travailler, qui a fait quelque chose de très joli, et avec des petits clins d'œil sur la thématique des sorcières.
On continue de feuilleter L'Âge de Fer de décembre avec Fabien Ginesti dans quelques minutes. Allez, notre fil rouge aujourd'hui, c'est le magazine L'Âge de Fer qu'on feuillette en compagnie de Fabien Ginesti. Donc, on a vu ensemble qu'il y avait un gros dossier sur les sorcières. Il y a plein d'autres articles toujours très intéressants, notamment un entretien avec un certain Marc, un éleveur de chèvres en Ariège, qui a créé la Tontinette, un groupement foncier agricole mutuel pour aider les nouveaux petits paysans à s'installer, avec comme principe ne pas être propriétaire des terres que l'on cultive et surtout ne rien devoir aux banquiers. Voilà un article très très intéressant à lire, un article d'actualité sur les drones. Au Sénégal, les orpailleurs morts de la poussière, main dans la main avec des réfugiés géorgiens. Voilà quelques-uns des articles que vous pourrez lire. Et puis, il y a toujours des fiches pratiques. Ça, c'est marrant aussi dans ce journal. Et la fiche pratique ce mois-ci, c'est avoir un sapin de Noël sans couper d'arbre. Voilà, un do it yourself, ou plutôt un faites-le vous-même, s'il vous plaît. Bon, ben, il faut s'abonner. Comment on fait, Fabien Ginesti ?
On a les offres de Noël. Effectivement, il y a tout d'indiqué sur notre site internet. Là, on tape l'âge de fer, F-A-I-R-E, bien sûr, dans un moteur de recherche. On tombera sur notre site. Voilà, tout simplement. Et effectivement, on peut offrir des abonnements. Et du coup, nous, on envoie le journal à l'adresse qu'on nous indique. Et c'est vrai que ça fait un petit cadeau. Je ne peux que le recommander, effectivement, de faire ça. Et effectivement, sinon, se rendre dans le magasin bio le plus proche, s'il est diffuseur, et d'acheter le journal et de renvoyer le coupon papier s'il y a des personnes qui ne souhaitent pas aller sur Internet.
Merci beaucoup. Je te souhaite plein de bonnes choses à toi et à toute l'équipe de L'Âge de Fer pour ces fêtes de fin d'année qui vont être un petit peu particulières. Vous êtes déjà, j'imagine, en train de travailler, ou vous avez déjà fait peut-être même le numéro de janvier. Ce sera quoi la thématique en janvier ?
Alors, quelques pistes thématiques. On est en train d'affiner tout ça. On parlera peut-être de poésie aussi, quelque chose qui nous aère, qui nous aère l'esprit en ces temps sociaux un peu durs. Voilà, peut-être on va parler de poésie et quand même de certificats d'économie d'énergie aussi, des choses plus... plus terre à terre.
Ça marche.
Voilà, il y aura un peu de tout comme d'hab. Il y aura des fiches pratiques, des articles d'actualité, des articles d'analyse. Des articles qui présentent des petites initiatives très concrètes, des articles qui parlent des luttes et des résistances. Voilà, comme tous les mois, il y aura une petite potion magique, voilà, pour bien commencer l'année 2021. Voilà.
Merci beaucoup, Fabien Ginesti, nos amitiés à toute l'équipe, et bonne fête de fin d'année.
Merci. Au revoir.
Au revoir. À bientôt.